France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Anne Cafélec.
Bonjour.
Mozart, trois sonates, les 11e, 12e et 13e, sur votre nouveau disque qui vient de paraître. Mais d'abord, revenons quelques instants, si vous le voulez bien, sur la disparition de Paul Badura Skoda. Le pianiste autrichien a été l'un de vos maîtres. Comment l'avez-vous rencontré ?
Je l'ai rencontré au bon moment. Il y a des rencontres comme ça dans la vie qui se font en elles-mêmes, qui sont riches à cause des personnalités que l'on croise, mais aussi le moment où on les rencontre est crucial. En l'occurrence, j'avais 20 ans et c'était à la fois la découverte de Vienne, de la musique, c'est étonnamment, entre guillemets, viennoise, comme Schubert et Mozart, qu'au Conservatoire de Paris, on enseignait à peine. Et au fond, à l'époque, rétrospectivement, je me dis que c'était peut-être pas plus mal, parce que quand je suis allée là-bas, je n'avais absolument pas d'idées préconçues par rapport à ce répertoire. En quelque sorte, j'étais vierge dans cette approche. Je connaissais surtout Mozart à travers ses opéras, la flûte enchantée, les noces de Figaro, et j'en étais imprégnée. Et finalement, ça, c'est une très très bonne porte d'entrée, naturellement, pour toute la musique de Mozart, y compris instrumentale. Et donc, je suis allée suivre les cours de masterclass de Brendel, Badura Skoda et Demos. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé, en effet, assez longuement ces trois grands musiciens, surtout ensuite Brendel. Mais Badura Skoda m'a laissé un souvenir très, très, très vivant d'un homme qui était imprégné d'amour de la musique et d'une joie de vivre extraordinaire. Je pense qu'il avait un caractère proche de celui de Mozart. C'était un homme extrêmement qui avait cette sensibilité et en même temps une sorte d'allégresse à jouer la musique, et à jouer avec et à la jouer en même temps. Et j'ai eu la chance de lui tourner les pages pendant qu'il enregistrait l'intégrale des sonates de Schubert. Il m'avait demandé de tourner les pages et j'ai même tenu certaines notes de basse dans les enregistrements de certains adagios de Schubert. Il y avait des basses qu'il souhaitait garder mais sans la pédale, sans vous voyez, faire d'effets de brouillage. Et donc, j'ai tenu certaines notes de basse et j'ai été transportée par la découverte de ce répertoire qui, encore une fois, était à ce moment-là inconnu pour moi. Donc, il y a aussi les cadences des concertos de piano merveilleuses que je joue souvent, qui sont composées par lui et tellement dans l'esprit de Mozart.
Anne Kefelec, Paul Badura Skoda, s'il y avait deux, trois choses à retenir de son enseignement, de ce qu'il vous a appris?
Il y a une forme de franchise de ton dans sa façon de jouer. Vous savez, quand ce qu'on reçoit des maîtres et des rencontres, c'est très difficile de l'analyser exactement. On capte des choses, et notamment dans la prime jeunesse. Et là, je me souviens de cette espèce de naturel qu'il imprégnait et de ton, oui, d'une forme de franchise, côté direct dans son approche, tout en étant extrêmement vigilant par rapport au texte lui-même. Il a toute sa vie été à la fois dans la recherche des sources les plus savantes, étudiant les manuscrits, donc avec un soin extraordinaire, pour arriver à une forme d'authenticité, mais d'authenticité vivante. Ça, c'était toujours présent.
On va parler et écouter le disque Mozart. Ce disque, ce Mozart-là, vous ne le joueriez pas de cette façon sans lui?
Sans Vienne, sans lui, sans Brendel, oui, certainement, bien sûr, ça a été vraiment des sources auxquelles je me suis abreuvée, oui.
En revanche, il vous a jamais converti au pianoforte?
J'ai eu la chance d'aller voir chez lui sa collection d'instruments anciens et de tâter d'un certain nombre de ses claviers et même de jouer sur un clavecin extraordinaire, l'étude sur les degrés chromatiques de Debussy, je me souviens. Ça avait été un effet très, très inattendu. Mais oui, non, je me suis pas converti au piano forte, peut-être parce que...
Ou pas encore.
Je reconnais que, voilà, il y a plein d'expériences que j'aurais dû et tenter, peut-être à un moment donné j'aurais aimé travailler le chant aussi et puis apprendre à danser les claquettes, enfin donc il y a malheureusement des expériences à côté desquelles on passe, mais le piano forte, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup, notamment de l'écouter, et ça donne des idées de couleurs et effectivement ça peut, mais la musique voyage dans le temps et Mozart s'accommode très bien de nos grands pianos de concert modernes.
Anne Kefelec, depuis 7 heures, on a écouté Paul Badura-Skoda dans Mozart, dans Beethoven, dans Schubert. Le voici dans Haydn. Presto de la 54e sonate de Haydn, Paul Badura-Skoda au piano forte, Anne Kefelec.
Alors ça, on peut pas trouver un meilleur exemple pour l'évoquer, je trouve, parce qu'il y a une vivacité folle, une fantaisie, une liberté. Tout à l'heure, je vous parlais de la franchise de ton, de son son et de son attaque du piano. Et je pense qu'en effet, ça c'est quelque chose que j'ai appris là-bas. C'était que dans le cristal de Mozart, il faut boire la vie, que ça n'est pas un cristal dont il faut se tenir à l'écart de ce cristal, ne pas oser toucher. Souvent, on peut avoir cette sensation quand on écoute certains musiciens peuvent avoir peur de le jouer Mozart à cause de ça. C'est tellement parfait, cette transparence. Mais justement, à travers Badura-Skoda, on voit ça, cette liberté, cette joie de boire la vie dans Mozart.
Boire la vie dans Haydn ou dans Mozart. Mozart, nouveau disque qui vient de paraître. 3 sonates, les 11e, 12e et 13e. Il y en a 18 en tout. Hein, si on prend les numéros de Köchel, oui. C'est 331, oui. 332, 333. 3 sonates sœurs, dites-vous, sur ce nouveau disque. Mozart, c'est l'homme de votre vie ?
Oh oui. Mais pas que de moi. Je souhaiterais qu'il y ait bien plus de personnes d'ailleurs qui l'incluent dans leur vie et qui l'invitent dans leur vie parce que c'est une musique qui est tellement bienfaisante, qui aide à vivre.
C'est votre père, l'écrivain Henri Kefelec, qui le chérissait, qui vous l'a d'abord fait aimer ?
Oui, justement. Et effectivement, je dois beaucoup à mon père de ce point de vue-là aussi, car cette approche de Mozart, je vous parlais du cristal dans lequel il faut boire la vie, à travers les opéras, c'est la vie déborde et l'humain. Et en effet, quand on s'imprègne de Papageno, de Pamina, de tous ces personnages mozartiens, dès sa plus tendre enfance. Après, on a une forme de familiarité avec l'esprit de Mozart et on a moins peur d'y aller, même si après aussi on réalise à quel point cette transparence est difficile à contrôler.
Vous l'aviez déjà enregistré par ces trois sonates-là. Pourquoi vous avez eu ce désir maintenant? Il est né de quelle façon? Comment?
Vous savez, c'est tout à coup. Bien, j'ai joué l'intégrale de ces sonates, notamment une fois à la rue d'Enterron sur France Musique, d'ailleurs en direct, qui m'avait fait confiance. Et de toute façon, je ne laisse jamais passer longtemps sans le jouer. Donc, il fait vraiment partie de moi, partie de ma vie. Et en particulier, ces trois sonates, je trouvais aussi très intéressant de les jouer, de les rapprocher, puisque en effet, lui, il les a composées à la suite. Donc, il y a une forme de continuité. Dans l'écriture, même si elles sont extrêmement différentes, les trois. Et donc, oui, c'était pour moi une expérience que je suis heureuse d'avoir pu vivre.
Et alors, sur ce disque qui paraît chez Mirare, Anne Kefenek, il y a une bizarrerie. Moi, je crois que c'était une erreur au départ. D'abord la 13e, puis la 12e, puis la 11e. Pourquoi?
Oui, écoutez, c'est un petit clin d'œil à Mozart qui aimait beaucoup le Verlan, d'une certaine façon, puisqu'il signait certaines de ses lettres Trasom, donc en écrivant son nom de Mozart à l'envers. Et donc, je me suis dit que moi, même dans le parcours musical, je trouvais aussi bien de terminer par le clin d'œil de la marche turque, qui a un goût de farce qui n'était absolument pas étranger à Mozart. Mozart était très joueur, très blagueur, comme d'ailleurs Badura Skoda. Et donc, je ne trouvais pas du tout que c'était une trahison que de faire le chemin dans le sens inverse. Je trouvais que musicalement, ça pouvait tout à fait se défendre.
Allez, pas de farce, je vous propose l'adagio de la 12e sonate.
Non, en effet. Thank you.
Adagio de la 12e sonate de Mozart, la Köchel 332, extrait du nouveau disque d'Anne Kefelec qui paraît chez Mirare. On écoutait posément avec le sourire Anne Kefelec ce mouvement et on se disait, vous me disiez, comme c'est sensuel cette musique aussi. On
oui,
le dit rarement.
Oui, c'est pas forcément un mot qu'on emploie de premier, notamment pour les œuvres pour piano de Mozart, mais en effet, il y a une sensualité extraordinaire, parce que c'est vraiment le plus grand connaisseur d'amour qui soit au monde, Mozart. On le voit bien évidemment dans ses opéras, dans la finesse psychologique de tous les états amoureux, aussi bien l'amour trahi, l'amour du conte, que l'amour de la découverte, chérubin, etc. Et quand je joue sa musique, je suis tellement imprégnée de justement de ces situations, de ces états divers psychologiques et amoureux des opéras, que je suis portée par ça, c'est vrai. Et puis il y a dans les modulations, dans les chromatismes, dans les ornements en qui ne sont pas du tout pour moi du superflu ajouté pour faire joli. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une espèce d'exacerbation presque de la sensation et du dessin. Et là, il y a vraiment incontestablement, bien sûr, une forme de sensualité à le jouer. Le cantabile mozartien est vraiment
voire d'érotisme.
Ah bah oui, d'ailleurs c'est lié, l'érotisme et la sensualité, mais l'érotisme mozartien, il est d'une subtilité extraordinaire, il est tout en suggestion, à la fois transparent, clair, voreille, non voreille, vous vous souvenez, je voudrais, je ne voudrais pas, il y a ça dans cette musique, lorsque, en effet, les avances du conte sont repoussées.
Entre Anne Kefelec, qui évoquait sa rencontre tout à l'heure avec Paul Badura-Skoda à Vienne, et aujourd'hui, comment votre interprétation de Mozart a-t-elle évolué? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez enlevé, ce que vous avez ajouté?
Alors ça, c'est d'une façon générale dans l'existence, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on ajoute à sa propre personnalité, comment on s'émousse ou au contraire, comment on s'affine, comment on s'approfondit. C'est difficile à moi-même de le voir. Certainement qu'il y a des choses qui se placent, qui se vivent à des niveaux différents au fur et à mesure qu'on avance à travers les expériences aussi qui vous sont données de vivre, d'expériences de douleur ou de bonheur. Et évidemment, je suis imprégnée de ça, certainement. Et plus je vais, plus je vois à quel point ce qui est dit de nous dans la musique, ce qui est dit de l'être humain, à quel point c'est vital que ça existe sous cette forme, parce que nous sommes perpétuellement en train de vivre des choses qui nous dépassent. Et là, tout à coup, dans la musique, il y a une espèce de résolution de bien des mystères qui est apaisante.
Ne serait-ce que dans les choix des tempos, des tempi, peut-être que ça, par exemple, vous le jouiez plus vite il y a quelques années.
Thank you.
début de l'Allegro, de la 13e sonate de Mozart, la 333, sur ce disque Mozart qui paraît chez Mirare, Anne Kefelec. Oui, je parlais du tempo, oui, du rapport au temps, parce que parfois on l'entend jouer beaucoup plus rapidement, ce thème.
Oui, oui, vous avez raison. Et moi-même, ça m'est arrivé. Peut-être que ça m'arrivera encore, d'ailleurs, de le prendre à un tempo plus rapide. Mais je trouve que l'écriture elle-même de cette, dans ce premier mouvement, dans sa fluidité et sa douceur, il y a une forme de sérénité et de, dans le cantabile, à nouveau, dans le dessin même des phrases, des contours, on a envie de savourer cela comme vraiment ferait un chanteur. Et également, je pense, puisque vous parliez de qu'est-ce qui aurait pu changer au fur et à mesure dans mon évolution par rapport à, notamment à cette musique, je crois que d'une façon générale, le rapport au temps, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, se modifie forcément, et que peut-être au fur et à mesure qu'on en a moins a priori devant soi, comme disait Émile Ajar, la vie devant soi, ça se rétrécit quand même obligatoirement. Eh bien, à ce moment-là, moins on en a peut-être devant soi, plus on va le prendre le temps, parce qu'il faut s'en servir, il faut ne pas s'en priver, et la musique le donne.
Mozart, disque Mirare avec ses trois sonates, 11e, 12e et 13e, mais dans l'ordre inverse, on l'a dit. Merci Anne Kefelec d'être venue sur France Musique ce matin pour parler de ce disque et pour parler de Paul Badura-Skoda. Vous serez samedi prochain, samedi en 8, à Loche avec Olivier Charlier. Vous serez à Lens le 18 octobre et puis vous participerez à la Scarlatti Night Fever le 26 octobre. Demain, vous partez au Mans. Un concert avec votre frère Yann Kefelec. Oui. Quand vous êtes Garmont Parnasse, il y a un piano, vous jouez quoi ?
Ah oui, ça m'arrive souvent de d'expérimenter les pianos des gares quand ils sont libres, parce qu'ils sont pas, ils le sont pas souvent. Et j'aime énormément ce moment-là où on pourrait être incongru et en fait pas du tout. Les gens qui passent s'arrêtent un peu, questionnent et disent régulièrement « Ah, ça fait du bien ». Alors je suis toujours infiniment touchée par cette parole.
Rondo à la Turca, c'est l'extrait de cette 11e sonate de Mozart, Anne Kefelec au piano, sur ce disque Mirare qui vient de paraître. Et si vous achetez ce disque, vous saurez également les liens entre Mozart et Schopenhauer, et les liens entre Mozart et Vermeer que fait Anne Kefelec.
À réécouter sur francemusique.fr.